vue d'ensemble de l'actualité.
Dans nos valeurs québécoises, nos aînés qui ont bâti notre pays ont autant d'importance que les plus jeunes. Est-ce qu'on va pouvoir éviter toutes les mortalités chez les personnes âgées? La réponse est non. La preuve, on en a actuellement, mais on aurait eu beaucoup plus si on n'aurait pas pris les mesures.
Trainville PM.
Les résidences pour aînés, que ce soit les CHSLD ou les résidences privées, là, sont vraiment devenues des centres de contagion. Qu'est-ce que vous voulez? Là, on a 741 milieux de vie différents là, au Québec où au moins un cas, que ça peut être un usager, un résident, mettons, ou un employé qui a été confirmé avec la COVID là, ou est suspecté de l'avoir. 741. Et là, qu'est-ce que vous voulez ce matin? Là, 105 cas dans un CHSLD de Laval, le CHSLD Sainte-Dorothée, où il y a eu 8 décès. On va aller rejoindre le docteur David Lucier, qui est gériatre, donc qui travaille auprès des personnes aînées. Bonjour, docteur Lucier.
Bonjour, Monsieur Trainville.
Je parle du CHSLD de Laval, mais j'aurais pu parler également du centre de gériatrie hein, de Montréal aussi, où il y a eu des cas. Comment on fait, docteur Lucier, une fois que le virus est dans une résidence pour aînés, là, peu importe le type de résidence, là, comment on peut arrêter la bébite de se promener, toi?
Ben le mieux possible, ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'essayer d'asphyxier la bébite, si on veut, là, c'est-à-dire que on va isoler la personne qui est infectée par le virus. On va s'assurer que cette personne-là n'ait pas de contact du tout avec les autres résidents, que ce soit de la résidence ou du CHSLD. On va s'assurer que le personnel aussi, parce que le personnel est un vecteur important de transmission, donc on va s'assurer que le personnel transporte pas le virus d'une personne à une autre, donc avec tous les équipements de protection individuelle là, dont on parle tant. Donc, on va s'assurer que le personnel ne devienne pas un vecteur lui-même. Et surtout, on va s'assurer que les personnes ne soient pas en contact, que personne ne soit en contact avec une personne qui a été infectée.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée à ce moment-là, à l'intérieur du CHSLD ou de la résidence, une aile, une section, un étage qui est réservé aux personnes qui ont la COVID ou qui sont suspectées soupçonnées de l'avoir?
Oui, effectivement. En fait, on essaie de pas mélanger ceux qui sont suspectés et ceux qui sont confirmés. Donc, il y a ce qu'on appelle des zones froides, des zones chaudes, des zones tièdes ou ouvertes, jaunes et rouges. Là, la zone chaude, c'est où on place toutes les personnes qui ont une confirmation d'une infection à la COVID. La zone tiède va être ceux où on le suspecte, mais que c'est pas confirmé. Et la zone froide, c'est celle où les patients, on n'a pas de suspicion là, de COVID. Puis on s'assure qu'il n'y ait pas de relation, qu'il n'y ait pas du tout de contact entre ces différentes zones-là. Et que le autant que possible, c'est malheureusement pas possible toujours, que le personnel qui travaille dans une zone ne travaille pas dans les autres zones pour pas le transmettre là, d'une zone à l'autre. Donc, ouais. Ça peut être une partie d'unité, ça peut être un étage, il y a des endroits où ils ont carrément construit une unité à un endroit où il n'y avait pas d'unité auparavant. Donc, ça a été construit de toutes pièces, tout ça en une semaine. En Chine, ils ont construit des hôpitaux, mais nous, je peux vous dire que dans les CHSLD, on construit des unités, on construit des murs depuis une semaine pour s'assurer que de ralentir le plus possible la propagation du virus.
Ah ben ça, vous me l'apprenez. Donc, on va carrément couper un corridor, mettons, on va mettre un mur dans un corridor pour séparer la zone, mettons, la zone chaude de la zone tiède?
Ben ça, ça va être différent dans chaque endroit. Là. Je peux vous dire que nous, ce qu'on fait à l'Institut de gériatrie, effectivement, c'est qu'il y a eu des zones chaudes. Donc, on a regroupé tous les patients infectés sur le même étage. Et il y a aussi des constructions là, de murs dans des endroits. Nous, c'est dans un auditorium. C'est un endroit où il n'y avait pas de patients auparavant, mais où il y a une unité spéciale qui a été faite pour que les patients qui sont infectés soient pas en contact avec les autres et avoir un trajet aussi pour que les employés et les patients ne circulent pas dans les mêmes zones. Un peu comme ce qui a été fait à l'hôpital Notre-Dame, dont on a beaucoup entendu parler, qu'ils appellent l'hôpital dans l'hôpital. On fait la même chose là, dans les CHSLD pour éviter qu'il y ait une propagation du virus à ceux qui sont pas infectés.
Alors dites-moi, comment vous aménagez ça, un auditorium? Je suis curieux.
C'est un auditorium, c'est pas un amphithéâtre, là, il n'y a pas de banc, c'est une grande salle finalement.
D'accord.
C'est une grande salle où ils ont mis des cloisons puis des murs.
Et est-ce qu'à l'intérieur de l'auditorium, est-ce que vous avez seulement un type de patient ou est-ce que, compte tenu de l'espace, vous pourriez décider dans une partie de l'auditorium, on a des cas confirmés?
Non, ça, c'est vraiment très important que c'est seulement pour un type de patient, que ce soit des patients, le nôtre n'est pas encore en fonction, là, que ce soit des patients positifs ou des patients négatifs, mais il y a vraiment seulement un type de patient. Et le personnel qui travaille là, il entre le matin et en sort l'après-midi pour pas qu'il propage le virus à l'extérieur.
Là, il faut dire, là, pour les auditeurs, le bénéfice des auditeurs, là, qu'à l'Institut de gériatrie de Montréal, il y a 39 cas, au moins 39 cas qui ont été diagnostiqués là, au pavillon Alfred Desrochers et il y a eu 9 décès dans ce même pavillon Alfred Desrochers. Là. Donc, c'est très sérieux ce qui se passe là. Là, il y a une des choses qu'on entend de plus en plus, Dr Lucier, c'est le fait que si on veut freiner la propagation, on devrait tester systématiquement les employés parce qu'il y a des employés, puis c'est pas de leur faute, qui sont infectés, mais ils ne le savent pas. On sait qu'on peut se promener jusqu'à 10 jours avec le virus sans avoir de symptômes. Alors, on imagine un employé d'un CHSLD qui traite des gens qui ne le sait pas et qui, dans les faits, est devenu un vecteur de transmission. Est-ce qu'on ne devrait pas installer systématiquement les tests de dépistage dans les résidences pour aînés?
Mais en fait, c'est évidemment pas mon expertise, là. C'est une expertise de virologie ou de santé publique. Sauf que si on faisait ça, il faudrait faire le test à chaque jour parce que la personne qui est négative aujourd'hui pourrait être positive demain. Donc, ce serait à répéter à tous les jours, puis on a toujours un délai de 48 à 72 heures pour avoir le résultat. Donc, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on considère chaque patient, chaque résident comme potentiellement positif et on considère chaque employé comme potentiellement positif. Donc, tous les employés portent des masques, tous les employés vont se tenir à distance raisonnable des autres employés. On ne partage pas les mêmes téléphones, on ne partage pas les mêmes ordinateurs, on nettoie avant d'utiliser l'appareil de quelqu'un d'autre. Donc, dans le doute, on fait comme si tout le monde était positif parce que le test, je pense que ça nous apporterait une fausse réassurance parce que le test, il y a 2 jours, qui était négatif est peut-être maintenant positif.
Mais en même temps, là, j'ai un chauffeur de la STM qui m'écrit, là, il dit « Comment ça se fait que dans nos autobus, on embarque des gens du milieu de la santé avec leur uniforme? Ils rentrent et ils sortent avec le même uniforme. C'est pas acceptable, ça, docteur? »
Ça, je peux pas vous dire, mais ça a très bien été dit par Mme McCann. Puis nous, je ne veux pas vous parler de ce qui se passe ailleurs, là, mais nous, on a des directives très claires que ce qui entre de l'extérieur ne va pas auprès des patients et ce qui sort ne va pas non plus à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se change avant de partir et on a un uniforme qu'on lave, mais qu'il ne faudrait pas porter l'uniforme à l'extérieur, certainement pas.
Est-ce que chaque employé a une case dans laquelle laisser ses vêtements?
Oui, oui.
Oui? Parce que moi, je l'ai entendu, Mme McCann, dire dorénavant, les établissements vont se charger de laver les uniformes. Donc, les personnes qui rentrent vont devoir laisser leur linge là. Ils ne peuvent pas se promener in and out, comme on dit, avec les uniformes. Donc, ils vont les laisser à l'hôpital, puis ça va être lavé par l'hôpital ou par l'établissement. Ça se fait chez vous, ça?
Le fait de pas pouvoir se promener in and out, oui, ça se fait. Le fait que l'hôpital lave les uniformes, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je peux pas vous parler de ce qui se fait partout ailleurs. Je peux vous dire que chez nous, maintenant, il y a seulement 2 portes d'entrée et 1 porte de sortie qui sont ouvertes. On peut pas entrer par où on sort et l'inverse. Et il y a un contrôle à l'entrée pour s'assurer que les personnes qui entrent soient asymptomatiques et que les personnes qui vont aller travailler dans ce qu'on appelle les zones chaudes vont revertir l'équipement nécessaire sous supervision et elles se déshabillent aussi sous supervision pour être certaines de ne pas se contaminer avant de sortir puis de remettre leurs vêtements d'extérieur.
Donc, ça veut dire que l'uniforme avec lequel la personne entre à l'Institut de gériatrie, elle va le mettre, mettons, dans un sac de plastique dans sa case, là, parce que pour le moment, il ne lave pas encore. Il faut qu'elle ait donc un autre uniforme propre à enfiler pour commencer son quart de travail. Exact?
Bien, c'est-à-dire que quand elle entre, avec ses vêtements réguliers, puis ses vêtements, des vêtements civils qui n'est pas un uniforme. Puis là, elle va se changer, revêtir son uniforme de travail. Puis ce qui va être fait, si ce n'est pas fait aujourd'hui, ce sera demain. L'uniforme va être laissé là et il va être lavé par des gens qui vont se charger du nettoyage. Sinon, on apporte l'uniforme à la maison dans un sac scellé puis on lave tout à la maison.
Et on rapporte l'uniforme le lendemain. OK. Effectivement. Très bien. Docteur David Lucier, gériatre, donc, à l'Institut de gériatrie de Montréal. Écoutez, ça doit pas être évident pour vous, là. C'est tout un défi, hein. Comme gériatre, c'est ce qui se passe présentement, là.
Je vous avoue que c'est pas facile au niveau professionnel, mais au niveau humain, là, de voir ce qui se passe, c'est pas facile du tout, du tout.
OK, lâchez pas, docteur, lâchez pas. Très bien.
Merci
d'avoir répondu à nos questions. Après la pause, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, sera avec nous parce que si vous êtes parent d'un enfant qui fréquente une école publique, vous devriez recevoir ou avoir reçu déjà une trousse pédagogique, donc qui devrait vous servir par la suite, là, pour poursuivre l'éducation de l'enfant. Puis il y a tout le suivi du professeur, de l'enseignante, là, qui doit se faire parallèlement à ça. On va poser des questions au ministre de l'Éducation. Puis si j'ai un petit peu de temps, là, je vais vous laisser la parole. Si vous êtes papa, maman d'un enfant qui était à la maison, vous vous inquiétez de son année scolaire, vous êtes dans le réseau public, puis vous avez une question pour Jean-François Roberge, vous pourrez lui poser dans un instant.